En terminant donc cette section B de la première partie concernant les destinataires des interpellations, je le dis encore une fois, ces interpellations s'adressent donc exclusivement aux cinq groupes mentionnés plus tôt, parce qu'ils sont composés de fidèles qui savent, sentent et désirent que l'Église se renouvelle. Ils le savent parce que le Seigneur le leur a mis au cœur directement. Ils le sentent parce que par sa grâce, ces personnes voient clairement l'impasse, le cul-de-sac dans lequel notre Église s'est engagée. Ils le désirent tout en sachant que cela va exiger une conversion radicale et un engagement pour vrai, et ils se disent prêts à en payer le prix. Bien respectueusement, j'invite donc deux groupes plus particulièrement à s'abstenir d'écouter ces interpellations. Ceux et celles pour qui l'Église va très bien, Madame la Marquise, et pour qui l'Église n'a besoin que de quelques retouches bien mineures. Si tel est votre cas, je vous en prie, arrêtez immédiatement cette écoute des cassettes, car l'heure n'est pas venue pour vous et vous risquez fort d'être agacé ou irrité par certains de mes propos. Je déconseille également l'audition de ces enseignements aux gens qui, déjà blessés et éloignés de l'Église, voudraient y trouver matière à se dire « j'avais raison ». L'Église est fautive, il faut la condamner et la fuir. Je le regrette, mais mon but est tout autre. Je m'adresse essentiellement à ceux et celles qui, comme moi et une multitude d'autres, à mon avis un bon 30 à 40% du peuple de Dieu au Québec ou ailleurs, voient clairement notre situation, la déplorent, et croient qu'il est possible et grand temps de nous ressaisir et sont particulièrement ou personnellement prêts à s'y consacrer, et pleins de foi et d'espérance que, moyennant sa sainte grâce, on va réussir. Ces cassettes ne s'adressent pas non plus à ceux et à celles qui voudraient les utiliser pour régler leur compte envers l'Église, en sortant telle ou telle affirmation ou expression de son contexte ou de ses nuances, pour en faire une arme méchante ou empoisonnée. Si, en certaines occasions, je dénonce, en les appelant par leur nom, certaines de nos lacunes, omissions, demi-mesures ou compromissions regrettables en Église, ce n'est pas pour assommer des personnes, mais uniquement pour chercher ensemble des causes et des solutions. Enfin, à la demande même du Seigneur, ces quatre interpellations se font en Église du Québec, à laquelle je suis heureux d'appartenir. Mais, comme une note sous vos yeux le précise, mes réflexions et suggestions concernant l'Église du Québec s'appliquent fort bien, je vous l'assure, après vérification et moyennant seulement quelques adaptations mineures à tout ce qui se vit ou devrait se vivre dans bien d'autres églises particulières, tant au Canada que dans les Amériques et en Europe. Passons maintenant à la section C de cette première partie, intitulée « Quelques précisions sur le contenu de ces interpellations ». Vous le savez, chaque année, à la fin de janvier, le président des États-Unis présente à la nation, devant les deux chambres réunies, ce qu'il appelle l'État de l'Union, le State of the Union. C'est son compte rendu à lui sur l'état dans lequel se trouvent les États-Unis, tant ad intra qu'ad extra. À tous les 5 ans, chaque évêque, et maintenant cela se fait collectivement, par groupe, les évêques du Québec ensemble, vont exposer à Rome l'état de leur diocèse et de notre Église. Il s'agit de leur compte rendu. Nos évêques du Québec ont présenté incidemment, en novembre 88, leur dernier rapport sur l'état de l'Église du Québec à Rome. Normalement, ce rapport doit décrire la situation telle qu'elle a évolué, en mieux ou en moins bien, depuis le rapport quinquennal précédent. L'ensemble de tout ce qui va suivre entend se situer un peu dans ce contexte. Je présente le tout comme une simple contribution fraternelle en Église à cette évaluation nécessaire et constante que nous devons faire de l'état actuel de l'Église. Rien de plus, ni rien de moins. Je souhaite de tout mon cœur que beaucoup d'autres fassent le même effort et osent s'exprimer à leurs risques et dépens, non pas dans le but d'argumenter, de susciter une polémique, mais dans celui de donner à Rome, au Saint-Père, à nos seigneurs les évêques du Québec et des autres églises, une variété de sons de cloche. Il ne serait ni bon ni juste, en fait, que l'Église qui est vécue par tous ne soit évaluée et interprétée que par certains. Que l'Église qui est œuvre communautaire ne soit photographiée en tant que famille et représentée que partiellement en l'absence de plusieurs éléments actifs. Ce que vous allez entendre dans ces interpellations, mes chers frères et chères sœurs, je vous le confesse bien simplement et dès le point de départ, n'est donc pas, bien entendu, ce qui se pense et se dit nécessairement tous les jours dans les corridors ou les réunions tenues dans nos évêchés, nos secrétariats d'épiscopat, nos centrales d'œuvres officielles, ni nos maisons-mères de communautés, du moins de façon générale, à quelques exceptions près, c'est sûr et certain. Mais absolument tout ce que je vais vous dire, je vous l'assure, est présentement l'opinion majoritaire du peuple de Dieu, pratiquant comme non pratiquant en Église à l'heure actuelle, et pas seulement chez nous, mais dans bien d'autres pays. Tout le contenu de ces quatre interpellations me vient d'un torrent continu d'informations, d'observations, de consultations, d'expériences, de partages et de discernements qui affluent vers les fondations et moi-même depuis 1975, 15 ans donc, en provenance d'au moins 6 sources importantes, distinctes, indépendantes les unes des autres, mais par ailleurs qui s'avèrent complémentaires et se confirment les unes les autres. La première source, quoique lointaine, vient de mon expérience personnelle de 29 ans de service actif en Église-institution, dans une grande variété de ministères, ministère paroissial, enseignement, œuvre, prédication, administration, à tous les niveaux institutionnels, diocésain, provincial, national, canadien et international, dont 11 années en tant que secrétaire général des évêques du Québec, du Canada, à compter des 2 dernières années de Vatican II, ce qui m'a mis en contact direct et fréquent avec 165 des évêques canadiens. Contact également assidu avec les communautés religieuses. La deuxième source, c'est l'expérience qui est vécue aux fondations depuis 15 ans, selon une méthodologie que j'aurai l'occasion de vous expliquer. Ça a été pour nous extraordinairement éclairant sur l'état actuel de notre Église. La troisième source, et celle-ci, j'ouvre ici une parenthèse pour vous l'expliquer un peu, Après ma démission en tant que secrétaire général de l'Épiscopat canadien en 1975, j'ai découvert, à ma grande surprise, qu'il existe, de facto, je dirais deux aspects ou deux sections bien distinctes en notre seule et même Église. Et j'ai tôt fait de leur donner chacune un nom. Il y a d'abord ce que j'appelle l'Église qu'on assemble et qui nous ressemble. Ce sont les fidèles qui s'activent et s'expriment en Église, et on sait assez tôt et assez bien ce qu'ils pensent et veulent. Mais ma découverte a porté sur l'Église, et notons que cette portion est nettement majoritaire, qui nous regarde et reste sur ses gardes. Elle comprend beaucoup de pratiquants, plutôt sourds et muets en notre présence, ou tenant un langage diplomatisé pour les circonstances. Il y a parmi eux des gens en autorité, et bien entendu tous les non-pratiquants et les victimes de l'Église qui se tiennent à distance. J'ai découvert donc qu'il n'y avait, non pas deux Églises, mais en notre seule et même Église, comme deux bercails différents, deux bergeries distinctes, où se répartissent les brebis au sein de notre Église. Les unes, dans l'Église qu'on rassemble et qui nous ressemble, les unes avec berger, et les autres sans berger, et c'est le plus grand nombre. Non pas que ces gens n'en veulent pas de berger, mais tout simplement parce qu'ils n'en trouvent pas, en qui et au fond de qui ils croient reconnaître la voix du bon pasteur Jésus. Ils ne veulent pas se contenter, disent-ils, de retrouver en leur curé, vicaire, évêque ou supérieur, seulement un administrateur, un entrepreneur, un travailleur social, un sociologue, un organisateur comme tant d'autres, et non plus seulement un homme ou femme intelligent, cultivé et dévoué, comme on en rencontre dans le reste du monde. Mais ils sont à la recherche d'hommes et de femmes vraiment du Seigneur, de pasteurs d'âmes, de personnes en qui la vie spirituelle prime et éclate. Pendant les 29 premières années de ma vie sacerdotale, et surtout en travaillant de si près pour et avec les évêques au niveau de l'archidiocèse de Montréal, du Québec et du Canada, j'ai surtout connu et entendu l'Église qu'on rassemble et qui nous ressemble, tout en croyant bien connaître alors à fond toute notre Église. C'était une illusion. Ce n'est que depuis ma démission, 15 ans passés, que j'ai découvert cet autre bercail sans pasteur. Et c'est la majorité de nos fidèles pratiquants et non-pratiquants. Ici, je pourrais vous faire entre parenthèses cette confidence. Quand j'ai quitté mon poste, c'était en avril 1975. Dans les mois qui ont suivi, je rencontrais des gens qui me disaient tout simplement « Avez-vous quitté votre fonction de secrétaire général ?» Je disais « Oui. » « Mais quitté complètement ?» Je disais « Oui, oui, complètement. » Vous n'avez plus rien à faire, là, comme secrétaire général des évêques ?» Je disais « Non, non, c'est fini, il y a un successeur de nommé. Est-ce que je pourrais m'ouvrir le cœur et vous parler ?» Et j'ai eu des religieux, des supérieurs, des prêtres, des laïcs que j'avais fréquentés pendant les nombreuses années où j'étais en fonction, que je croyais connaître, qui m'avaient livré ce que je pensais être leurs opinions, tout à coup me dire, vous savez, maintenant que vous n'êtes pas en fonction, je vais vous dire ce que je pense. Et j'irai même vous avouer que certains évêques ont tenu devant moi des propos différents au lendemain de mon départ. Et c'est donc une dimension qui ne qui n'est pas perçu habituellement par l'autorité, tout simplement parce que ces gens-là qui nous regardent et restent sur leur garde ne s'expriment pas devant l'autorité. Ou s'ils le font, ils ont un double langage pour la circonstance. Eh bien, ces gens-là, j'ai pu les fréquenter depuis 15 ans. J'ai pu me mêler à ce bercail sans pasteur. Et c'est aujourd'hui, je me sens un peu habilité à interpréter leurs pensées. La quatrième source, c'est l'expérience concluante de milliers et de milliers de gens qui, dans tous les secteurs de vie de l'Église, sont déjà engagés en faveur d'un renouveau spirituel encore plus profond de l'institutionnel actuel en Église. La cinquième source d'information sur la situation de notre Église, je la tire de l'ensemble des messages prophétiques livrés au nom de l'Esprit du Seigneur par des gens au charisme authentique en Église et authentiqué, et proclamé fréquemment ici et là, depuis 15 ans au moins, au pays et à l'étranger, à l'occasion de réunions de prière ou de rassemblements d'adoration. Sixième source, et finalement, c'est tout ce qui éclate de plus en plus, de façon évidente et interpellante un peu partout dans le peuple de Dieu, pour peu qu'on se place vraiment à l'écoute des âmes et de la faim et de la soif spirituelle très grande du peuple de Dieu. Donc, tout ce que j'ai à dire dans ces interpellations, ce que je vais partager avec vous, croyez-le, n'est pas seulement de mon cru à moi personnellement, mais est déjà connu depuis longtemps, pensé par le grand nombre, dit et redit en maints endroits, confirmé par le Seigneur, et en route déjà que, même si nous du clergé, le comprenons ou ne le comprenons pas, le voulions ou ne le voulions pas. Il ne manquait jusqu'ici qu'une chose, que quelqu'un ait l'audace de l'Esprit du Seigneur, pour oser le dire tout haut, le dire avec amour, en toute liberté spirituelle et vérité, à temps et à contre-temps, avec l'appui d'un vécu personnel et communautaire qui a pu approfondir et comparer longuement les deux styles de vie et de comportement possibles en Église. Et, comme dit la chanson, le sort tomba sur le plus jeune. Il y a donc un grand décalage inévitable, je l'avoue encore, entre d'une part la perception que les évêques et le clergé ont souvent encore de leur et notre Église, en ce secteur qu'on rassemble et qui nous ressemble, et d'autre part la perception que je n'hésiterai pas à affirmer, la majorité des fidèles chez nous ont, chez nous et ailleurs, tant ceux qui sont pratiquants que non pratiquants, en ce secteur qui nous regarde et demeure sur ses gardes. Le choc et la surprise passés, j'ai confiance, mes chers amis, dans le grand bon sens humain naturel et le bon sens de la foi surnaturelle de notre peuple pour lui-même être capable de faire la part des choses et de bien discerner tout cela. J'en conviens d'avance, je vais inévitablement décevoir deux groupes. D'abord, ceux et celles qui vont trouver que je ne vais pas assez loin ou assez fort dans mes commentaires. Je le regrette pour eux et elles, mais mon intention n'est pas de dénoncer, de démolir, de confondre ou d'humilier, mais d'exhorter et d'édifier en Église. Et si j'oserais appeler certaines choses, certains abus ou compromis malheureux par leur nom, c'est que je n'ai pu faire autrement. Et parce que je crois, après discernement et prière, qu'il fallait dire tout haut, au moins une fois, ces griefs, que le grand nombre pense déjà tout bas et partage en catimini, et qu'une fois énoncés, ces travers seraient plus aisément redressés et combattus. Du moins, je le crois sincèrement. Ensuite, je risque également de décevoir les partisans et partisanes de la conciliation à outrance, coûte que coûte, au prix même d'une charité diplomatisée, diluée, soucieuse de dissimuler le plus possible les erreurs et les problèmes. Les apparences, quoi. Pour eux et elles, plus on ignore les situations, plus celles-ci nous ignorent. Ce qui est une grave illusion. C'est celle de l'autruche qui met sa tête dans le sable et à laquelle beaucoup succombent, hélas, encore en Église comme ailleurs. Passons enfin à la quatrième et dernière section de cette première partie. Quel esprit anime ces interpellations? Je vous dirai quelques mots sur l'esprit qui anime ces interpellations et moi-même, car je sais que c'est le droit de tous, et en particulier vous, chers auditeurs et auditrices de ces enseignements, que vous me connaissiez déjà très bien, moins bien ou pas du tout, d'être à nouveau conforté dès le point de départ, avant que dans la deuxième partie, nous nous attaquions résolument, tous ensemble, au vif du sujet. Dans cette section D, j'ai le goût de vous servir un genre de feu d'artifice, à la moderne, composé de pièces pyrotechniques, assez disparates peut-être, mais qu'on fait éclater rapidement les unes après les autres, dans une suite de détonations d'inégale importance. Une pétarade de feux d'artifice, quoi. Et j'ajouterai, en guise de finale, un élément surprise, marqué au coin de l'humour et de la fantaisie. Vous êtes prêts? On y va. Notre rapide et intense feu d'artifice va comprendre 6 mises au point, 2 mises en valeur, puis 3 mises en garde. Allons-y, en commençant par les 6 rapides mises au point. La première mise au point, je vous l'assure, en faisant ces interpellations, je ne me mets pas au-dessus de l'Église. Vous savez, par le fait que j'interpelle fraternellement en Église, plusieurs pourraient peut-être avoir l'impression que je me mets ou veuille me mettre au-dessus de l'Église pour la juger d'en haut. Cette réaction se comprend, étant donné la nature toute nouvelle de ce type d'action post-conciliaire que j'appelle interpellation fraternelle. Loin de me placer au-dessus de l'Église, je me situe au contraire en plein cœur, au-dedans de l'Église, comme un simple soldat dans cette vaste armée qu'est le peuple de Dieu. En 1975, j'ai précisément démissionné en tant que secrétaire général de l'Épiscopat de toute responsabilité officielle en Église qui, effectivement, me plaçait, veut-veut pas, un peu et souvent au-dessus de l'Église. Car il est en effet bien difficile pour les membres ou les personnes en autorité et leur entourage de ne pas juger l'Église d'en haut, de leur point de vue toujours au-dessus des autres. Mais j'ai quitté ce ou ces postes de mission et d'observation pour précisément me plonger davantage dans la masse des gens en Église. Et ce que je dis et dénonce vient bel et bien d'eux. Ils et elles, dans leur grande simplicité et conviction exemplaire de foi, me prêtent leurs idées, leurs réactions, leurs aspirations, et moi je leur prête ma voix, dans l'écoute priée et discernée auprès du Seigneur. Donc, croyez-le bien, ce n'est pas avec un complexe de supériorité ou de suffisance que je fais ces interpellations, mais avec la plus grande humilité et simplicité, soutenue par l'ardent désir de servir l'Église en communauté des fidèles et avec leur chef spirituel. Je n'ai aucun pouvoir, aucune juridiction pour réaliser ce que je proclame ou réclame. Mais j'ai le devoir de le dire au nom de ceux et celles qui n'osent pas, se sont essayés mais en vain, ou ne savent pas trop comment, où et quand l'exprimer. Le mot fraternel est aussi important et est indissociable du mot interpellation. Il précise que mes commentaires et suggestions s'adressent à des frères et sœurs, à des égaux en Église et n'entend défier personne. Deuxième mise au point, je ne soulève pas les fidèles, mais je demande à tous d'être fidèles à ce qui les soulève, déjà, au fond, d'eux-mêmes. Car dans la très grande majorité des cas écoutés et discernés, je suis sûr que c'est l'Esprit du Seigneur déjà à l'œuvre pour renouveler et relancer spirituellement son Église. Je ne fais aucun tort à l'Église. Si certains en étaient rendus par hasard à croire, à insinuer et à affirmer qu'on cause du tort à l'Église en interpellant les pasteurs, évêques et prêtres à se rapprocher davantage du Seigneur par une vie plus intense de prière et d'adoration, à interpeller les fidèles et les pasteurs à mieux accueillir l'amour trinitaire, à mieux vivre le vrai de vrai communautaire chrétien, et c'est essentiellement cela que l'on prône sous le slogan « Église évangélise-toi davantage », si telle était la pensée de certains, je le dis, c'est grand temps d'y voir. L'heure de Ninive est sonnée pour nous. Et si c'est ça, faire du tort à l'Église, j'aurais le goût de dire, avec un grand sourire, ben allons-y, faisons-lui du bon tort comme celui-là, et faisons-en pour la peine. Quatrième mise au point, ce geste n'est ni improvisé ni précipité. Dans ma lettre ouverte et fraternelle à l'Épiscopat du Canada, le 15 août 1984, à la page 5, une lettre qui annonçait le début de la mission prophétique pastorale et communautaire assumée par les fondations, sous le slogan « Église, évangélise-toi toi-même encore davantage », j'écrivais ceci, et je cite. « Après 9 ans et demi de silence, d'écoute, de réflexion, de prière et de discernement communautaire, d'expédition en plein cœur de l'Église, personne ne pourra, du moins honnêtement, raisonnablement, nous reprocher de parler ou d'agir avec trop de précipitation. » Et ajouter à ces 9 ans et demi, 5 autres années et demie d'observation, de consultation bien priée et discernée. Bien des choses que je vais souligner dans ces 4 interpellations en Église du Québec, et d'ailleurs, j'aurais probablement pu les déclarer déjà il y a 15 ans, alors que je quittais ma fonction de secrétaire de l'Épiscopat. Mais j'ai préféré m'accorder du recul et vérifier davantage mes impressions ou les faits en question, et bien attendre pour voir si les choses allaient changer et s'améliorer. Je ne regrette vraiment pas d'avoir attendu aussi longtemps avant d'interpeller. Plus tôt aurait été, à mon avis, trop tôt, et plus tard, ce serait peut-être trop tard. Enfin, nous allons procéder sans tambour ni trompette. Nous ne recourons nullement aux masses médias pour promouvoir cette relance. Aucune recherche ou désir de manchette ou de propagation. Je prie même, et prie avec moi, pour que nous en soyons préservés. Sixième mise au point, je tiens à le dire, il y a beaucoup de belles et bonnes choses en notre Église. La présente interpellation ne se présente pas comme un bilan complet de l'Église avec 2 colonnes parallèles, d'un côté les aspects positifs et d'un autre côté de la page ses aspects négatifs. Notre intervention ne se veut donc pas une étude comparative ou une évaluation descriptive. Certes, je pourrais faire un éloge généreux et bien mérité de tout ce qui se fait de beau, de bon et de vrai en Église, au Québec, en Europe, dans le reste du Canada et dans les Amériques, comme par exemple les adaptations post-conciliaires valables, la présence accrue au monde, aux démunis, les déclarations et prises de position multiples, la grande ingéniosité pastorale, les nouvelles communautés religieuses édifiantes, les manifestations populaires publiques de foi, de pardon, d'amour de Dieu, les témoignages nombreux, émouvants, de vie donnée et consacrée au Seigneur, la grande activité et le dévouement exemplaire de nos dirigeants spirituels. Bien entendu, tout n'est pas de travers en notre Église, particulière ou internationale. Il y a d'excellentes personnes à l'œuvre parmi nos évêques, nos laïcs engagés, nos religieux, nos religieuses, parmi nos prêtres consacrés aux paroisses ou aux œuvres. Les mouvements dits de renouveau ont fait et font encore leurs preuves. Beaucoup de fidèles ont découvert ou redécouvert l'importance et le goût de la prière, de la Bible, le sens de l'écoute du Seigneur, des louanges à lui rendre, du partage et du témoignage de leur foi. Mais, oui, mais, malgré tout cela, nous sommes menacés, à mon humble avis, d'être entraînés vers le bas du courant. Je vous demande donc de comprendre que si durant cet enseignement je m'attarde à certaines de nos lacunes, je connais comme vous, tout autant que vous, les autres beaux, bons et vrais côtés de la médaille. Je les prends pour acquis, mais ils demeurent encore nettement insuffisants et sont loin de faire le poids. Après cette première pétarade de 6 mises au point, P-O-I-N-T et non pas P-O-I-N-G-S, passons à une autre de 2 mises en valeur cette fois. La première. Comme plusieurs le savent déjà, car le cher tam-tam ecclésiastique existe toujours, ou d'autres se chargeront de vous le chuchoter, j'ai été et je suis encore à l'occasion, du moins en certains milieux, et ce depuis quelques années, une cible préférée et la victime souhaitée d'une campagne odieuse, à peine voilée de dénigrement et de diffamation. Cette mer de boue a été délayée au point de départ, semble-t-il, par quelques personnes bien intentionnées, quelques laïcs, religieux, religieuses, prêtres, et même, tenez-vous bien, quelques évêques. On n'a pas ménagé à mon endroit et à celui des fondations les accusations et les diffamations les plus graves, comme celle, par exemple, d'hérétiques, de schismatiques, de fondateurs d'une secte, de folie dépressive, d'illuminisme, etc. Comme vous le savez, en Église, on aime le style litanie. Avant de procéder davantage dans ces interpellations, et l'idée m'en est venue dans la prière ces dernières semaines, je tiens à dire, devant toute la communauté chrétienne, et en particulier devant vous, mes frères et sœurs, en notre Église catholique romaine, d'abord que je pardonne de tout mon cœur, devant Dieu, à tous ceux et à toutes celles qui m'ont ainsi diffamé gravement, me diffament encore, ou me diffameront éventuellement. Et ce, à tous sans exception aucune, et inconditionnellement. Tous les jours, d'ailleurs, j'offre tout cela au Seigneur pour qu'il en tire tout le bien possible pour sa gloire, le bien renouveau de l'Église et le salut des âmes. Ensuite, je réitère à qui m'entend que tout cela, comme je l'ai d'ailleurs déjà écrit, est d'une fausseté inouïe et d'une gravité incroyable. C'est faux de A à Z. Je laisse donc au Seigneur, à sa manière bien à lui, de la leur faire découvrir en leur conscience morale chrétienne et psychologique. C'est lui qui, le mieux, saura par ses grâces les conduire un bon jour au repentir, à la conversion et à la réparation nécessaire. Enfin, je précise que malgré cette mer de boue, notre traversée se poursuit quand même heureuse et fructueuse. Le messager n'a été ni écrasé ni révolté, comme vous le voyez, et le message nullement entamé, dilué ou modifié. Je ne voudrais pas tourner le fer dans la plaie, mais je me dois d'avouer que, selon toute apparence, ces basses tactiques sont en train de faire boomerang, c'est-à-dire de nuire à leurs auteurs, semble-t-il, par le scandale causé, et d'aider les fondations qui n'ont jamais été tant sollicitées. Je m'arrête là-dessus. Dans l'ensemble des cassettes qui seront mises en circulation au cours de 1990 et 1991, j'y reviendrai forcément à deux reprises. L'une intitulée « Le mangeons-nous les uns les autres en Église » et l'autre intitulée « Quatrième interpellation aux archevêques et évêques ». La deuxième mise en valeur, même si ce qui suit va sans dire pour nous tous, compte tenu du fait que le style d'interpellation fraternelle en Église est tout à fait nouveau, en fait d'expérience post-conciliaire, je me sens également inspiré à rassurer d'avance, sans équivoque, tout auditeur sur notre entière foi et fidélité à l'Église catholique romaine. À titre personnel et en tant que groupe aux fondations, nous n'avons absolument aucune, mais aucune, réserve ou hésitation à accepter d'emblée et à mettre en pratique tout l'enseignement au grand complet de l'Évangile, du magistère de l'Église, y inclus bien entendu Vatican II. Nous ne mettons absolument rien de tout cela en cause. Nous voulons en vivre de A à Z et nous adhérons à 100% à la tradition de l'Église et à son gouvernement confié aux successeurs des apôtres, à savoir les évêques et le pape en tête. Donc aucune tendance, risque ou désir du moindre schisme ou d'hérésie ou de secte. Ce que je mets et mettrai sérieusement en cause n'a rien à voir avec la doctrine, le dogme, la morale, l'Écriture sainte, ni rien à voir avec la hiérarchie en Église, mais seulement avec nous-mêmes, nos comportements de bergers, de pasteurs ordonnés et consacrés, de leaders spirituels laïcs, dans notre façon souvent trop anémique, déficitaire, de nous acquitter de notre mission d'Église. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qui en dérange ou en agace plusieurs. Ils ne veulent pas s'arrêter à cela. On préfère s'occuper à fond de train de tout et de tous, sauf de soi et de sa révision de vie. Et cela en énerve, en secoue, en irrite même plusieurs de se faire rappeler qu'il nous faut accepter les grandes et indispensables exigences qui s'imposent si on veut que l'Église se renouvelle, entre autres choses, que le Seigneur redevienne maître à bord, que le temps de notre mutinerie a assez duré et qu'il faut répondre à son appel « Soyez saints comme votre Père est saint ». Encore une dernière pétarade, de mise non pas au point, ou de mise en valeur, mais de mise en garde. Cette pétarade sera brève. Trois requêtes sincères de ma part. Mes amis, je vous en prie de tout mon cœur et pour l'amour de Dieu, de ne pas dramatiser cette série d'interpellations. Il s'agit d'un message parmi bien d'autres possibles et probables en Église. Même si j'ai consacré 15 belles années de ma vie dans l'écoute du Seigneur, la prière, le discernement et l'expérimentation, avant d'en arriver aujourd'hui à parler avec autant de franchise, de clarté et d'assurance acquises précisément grâce à ces années de recul, cela ne devient pas pour autant un dogme de foi, une prise de position infaillible, encore moins un décret de l'autorité. Chacun et chacune d'entre vous doit donc demeurer entièrement libre pendant et après l'écoute de cette expérience partage. Comme vous le savez, je me définis souvent comme un simple petit gars qui fait de la livraison pour son bon papa du ciel. Eh bien, ma livraison faite dans l'amour, je suis en paix et dans la joie. Qu'il en soit ainsi pour vous, une fois la livraison accueillie. En deuxième lieu, je vous prie également de ne pas exploiter non plus ces interpellations, c'est-à-dire de ne pas les utiliser à mauvais escient pour confondre quelqu'un, pour le confronter, ou encore moins pour l'humilier ou le matraquer. J'irai même jusqu'à vous déconseiller de vous en servir pour soi-disant convertir, même en voulant aider le Seigneur avec les meilleures intentions. Je vous le dis, et s'il vous plaît, ne l'oublions jamais, la relance de notre Église, qui est le thème majeur de cette série d'enseignements, est et doit demeurer à 100% une œuvre du Seigneur. C'est lui qui vous a rendu et m'a rendu disponible pour bien entendre et comprendre cet appel, son appel au renouveau de l'Église. Eh bien, c'est encore lui, et lui seul, qui va en temps et lieu rejoindre et préparer les autres. Et finalement, troisième mise en garde, ne pas extrapoler, interpréter, lancer des hypothèses, m'imputer des sous-entendus, sortir des affirmations de leur contexte. Je vous en prie, tenez-vous-en quand vous voudrez m'impliquer ou me citer et exiger ça des autres, uniquement à ce que j'ai vraiment dit, au texte bien situé dans le contexte de ce qui précède et suit. Rien de plus ni rien de moins. Et je reviens un moment sur la première des mises en garde. Encore une fois, ne pas dramatiser le tout. Restez calme et serein avant et pendant et après. Et je vois que le temps passe. J'étais rendu au point de vous communiquer cet élément surprise et de fantaisie, mais je pense qu'on va retenir ça pour le début de la deuxième cassette que nous enregistrerons dans quelques heures. Amen. Alléluia.